y a une longue tradition dans la comédie, traitant de l'amour et du mariage, et globalement, on peut opposer deux modèles. Dans ce qu'on pourrait appeler l'ancienne comédie, dont Molière sera un petit peu le modèle, vous avez deux jeunes gens qui doivent batailler contre l'extérieur pour pouvoir se marier, puis finissent par y arriver. Et puis l'intrigue amoureuse reste cependant périphérique, hein, donc ça c'est plutôt Molière. Et puis la nouvelle comédie, qu'on verrait plutôt chez Marivaux, où l'obstacle est intérieur beaucoup plus qu'extérieur, et l'intrigue amoureuse est centrale, et je dirais prend un petit peu le pas sur l'intrigue. Alors avec Le mariage de Figaro, Beaumarchais a réussi la synthèse entre ces deux traditions, puisqu'il y a les deux. Si on considère le cas de Dumas, très clairement, il se situe comme héritier de Marivaux, hein, et est un très bon représentant de cette nouvelle comédie en la faisant évoluer dans son siècle. Alors, j'ai un corpus que je vais présenter et classer en deux catégories. Alors, je vous ai fait des petits résumés. Je distingue deux catégories, les grandes comédies en costume, hein, qui ont recours à l'éloignement chronologique. Donc je me suis intéressée à Un mariage sous Louis XV, Les Demoiselles de Saint-Cyr, Le verrou de la Reine et aussi La Jeunesse de Louis XIV. Alors ce sont des pièces qui ont été jouées à la Comédie Française, sauf Le verrou de la Reine et La Jeunesse de Louis XIV qui ont été censurées et représentées ailleurs. Mais elles avaient été prévues pour la Comédie Française. Donc c'est cette idée de la Comédie Française qui a en quelque sorte... jouer sur leur conception. Alors, dans ces grandes comédies, sauf La Jeunesse de Louis XIV, le mariage a lieu au début de la pièce. Il s'agit d'un mariage arrangé, voire forcé. Et l'enjeu de la pièce, c'est de surmonter le conflit et de transformer ce mariage minimal en mariage d'amour, les sentiments devant valider l'institution. C'est ainsi que fonctionne Un mariage sous Louis XV, qui démarre sur une union de convenance familiale, donc deux cousins qu'on marie. Le fonctionnement des Demoiselles de Saint-Cyr, ça ressemble un petit peu à ça. Il s'agit d'un mariage forcé. Alors pour nous, un mariage forcé, c'est l'horreur, mais là, comme ce sont les hommes qui en sont les victimes, on trouve ça très drôle. Donc ces hommes sont obligés de fuir leur femme en Espagne, mais elle les rattrape. Bon. Le verrou de la Reine, c'est le mariage de Louis XV et de Marie Leczinska, donc forcément c'est un mariage mis en place par la raison d'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que les problèmes entre les têtes couronnées sont traités exactement comme des problèmes entre simples particuliers, ce qu'on verra. Et dans La Jeunesse de Louis XV, ce qui est l'exception qui confirme la règle, là pour le coup, le projet de mariage amoureux avorte et à la fin, on se dirige vers un mariage arrangé, compatible avec la raison d'État. De l'autre côté, j'ai retenu les petites comédies qui, à part Le mari de la veuve, sont plus tardives, donc vous avez au Verseau. Ce sont des comédies qui, à part Le mari de la veuve, jouées à la Comédie Française, sont jouées sur des scènes secondaires, vaudeville, gymnase, dans les années 50, donc c'est un petit peu après. Donc là, on est dans le monde contemporain, on traite de mœurs contemporaines, mais ces pièces refusent le prosaïsme. Elles n'ont pas non plus une intention réaliste bien affirmée. Le rythme est tellement effréné, la vraisemblance dans les situations est vraiment minimale. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur caractère resserré, elles mettent à nu les ressorts dramatiques. Alors, dans ces petites comédies, le mariage est le point d'arrivée. Donc, en cela, ce sont des wedding comedies. Mais ce mariage point d'arrivée arrive avec des surprises et des retournements. Il y en a qui ont une certaine finesse psychologique, d'autres qui sont franchement loufoques, comme Le Cachemire Vert et L'Honneur est satisfait. Bon. Et ces petites comédies donc mettent en scène un jeune homme et une jeune femme en situation de conflit qui finit par s'accorder. Donc il faut surmonter le conflit et aller vers un mariage présenté comme un mariage de libre choix. Dans Le mari de la veuve, on trouve un couple de jeunes gens qui doit se marier, mais le problème c'est que le jeune homme est amoureux de la tante de sa fiancée, donc ça ne va pas du tout. Dans L'invitation à la valse, un homme et une femme autrefois amoureux et redevenus disponibles se retrouvent, mais comme par hasard, leurs sentiments ne sont plus les mêmes. Dans Le Cachemire Vert et L'Honneur est satisfait, c'est dans les deux cas un homme qui poursuit contre son gré une femme et qui résiste, parce que le code de bienséance lui impose ça, puis peut-être parce qu'elle le trouve vraiment fâcheux au début. Ce qui est intéressant, c'est que tout se joue en un acte et une heure, donc il a 60 minutes pour convaincre, hein, on est vraiment à mi-chemin entre le speed dating et le harcèlement, et le retournement, je dirais, peut être vu comme une variante du coup de foudre. Mais ces petites comédies font la démonstration de la valeur performative du langage, puisque ce sont les mots, et les mots seuls, hein, il ne se passe pas grand-chose, qui changent le déroulement et le dénouement. Alors vous allez me dire, mais voilà deux corpus très différents. Oui, mais si on regarde quand même dans le déroulement, ces comédies, petites ou grandes, utilisent des canevas qui sont très proches ou qui sont du moins comparables, avec des étapes bien définies, faisant passer les protagonistes du conflit à sa résolution et donc à la communion. Et c'est ce que je verrai donc dans un premier temps. Ensuite, on verra que tout en refusant une approche platement réaliste, qui aurait été très ennuyeuse, qui est un petit peu l'approche, je dirais, de Scribe, par exemple, elles traduisent néanmoins un éclairage sur les réalités du mariage et les rapports entre les sexes, mais pas au XVIIIe siècle, plutôt au XIXe. Hein, c'est le XVIIIe revisité à la sauce XIXe. Enfin, je verrai que dans le rôle traditionnellement dévolu à la comédie, qui est de corriger les mœurs, bon, peut-être de moins en moins important ce rôle, elle présente une vision lucide et apaisée des sentiments et un modèle acceptable et plausible de l'institution conjugale entre conformisme et hardiesse, hein, je dirais que c'est globalement deux tiers, un tiers. Enfin, voilà. Alors, pour aborder le déroulement de ces pièces, donc qui vont de la confrontation à la communion, alors je dirais que tout est important dans l'échange amoureux, enfin le langage est prioritaire parce que sur le plan des gestes, il n'y a pas grand-chose, hein, ça reste très chaste, quand on se serre la main, c'est un petit peu le bout du monde. Alors en quatre actes ou en un seul, toutes ces pièces reprennent peu ou prou le même canevas. On a au départ des amants ou des époux conflictuels qui doivent passer du duel au duo, alors avec des échanges très dynamiques, hein, en forme de ping-pong verbal. Et les étapes que j'ai définies sont les suivantes. Badinage, début propice, malentendu et dispute, épreuve, révélation, déclaration et réconciliation. Alors tous ces ingrédients, toutes ces étapes sont utilisées de manière variable selon les cas. Dans les petites comédies au tempo accéléré, il y en a qui passent parfois à la trappe. Alors si on regarde le premier ingrédient, c'est-à-dire le badinage, certaines comédies débutent sous de bons auspices, des entrevues cordiales, des déclarations passionnées qui sont parfois mensongères. On le voit très bien dans Un mariage sous Louis XV, première entrevue déterminante. Le comte et la comtesse qui viennent de se marier, alors qu'ils ne se connaissent pas, font connaissance et ça se passe très bien. Le comte se montre très accommodant, et la comtesse est surprise et ravie, et elle dit naïvement « Mais le mariage n'est donc point une chose aussi terrible qu'on le disait ?» Et les deux époux se confient l'un à l'autre, et sur leurs amours parallèles, parce qu'évidemment, ils ont tous une liaison à côté, et très curieusement, c'est ce qui leur permet le parler vrai. Hein, l'absence d'amour permet la franchise et l'amitié. Et comme dit le comte à sa femme, « Fie donc, comtesse, des secrets, c'est bon pour les gens qui s'aiment. » Donc nous, on ne s'aime pas, donc on va tous dire. Donc, cette entente paradoxale sert leur accord pour se laisser une certaine liberté et débouche sur un congé très cordial, mais on verra qu'après, ça a laissé quand même des traces importantes. Et puis après, on voit l'échange entre la comtesse et son amant, le chevalier, qui marche très mal parce qu'elle a en mémoire, finalement, cette première entrevue avec son époux qui a été déterminante. Dans l'invitation à la valse, qui est une petite comédie, bon, je passe un peu des grandes aux petites, Antonine, dans la première scène, badine avec Paul de Sort, qu'elle est conduit, il lui dit qu'il est amoureux, elle attend le retour de son cousin, mais malgré cette fin de non-recevoir, on voit que les deux protagonistes sont vraiment sur la même longueur d'onde, qu'il y a énormément de complicité, d'implicite, l'échange est très long, et après on verra effectivement que l'échange avec le fiancé tant attendu marche très mal. Dans Les Demoiselles de Saint-Cyr, alors là, il y a une situation de départ qui repose sur un malentendu avec une héroïne sentimentale, Charlotte, et un séducteur, Roger. Alors là, l'échange est très indirect. Il prend la forme d'une lettre avec promesse de mariage que Roger a adressée à Charlotte. Et cette lettre est lue par son amie Louise, qui la décrypte. Hein, alors, je n'ai pas besoin de vous dire que je vous aime, vous le savez. Oui, tu le sais, commente Louise, qui prend tout au pied de la lettre. Elle a beau être plus avertie, elle n'a pas vu le côté clichéique et mensonger de cette lettre. Donc, parfois, ça démarre bien, mais ça ne va pas durer. Et dans les petites comédies, souvent, on aime bien démarrer sur la crise, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on grille cette première étape. Et comme le dit Claire dans Le Cachemire Vert, à Conrad, ah oui, du marivaudage, je vous le conseille, le moment est bien choisi. Ben oui, il faut aller vite, donc on entre dans la dispute. Donc, la dispute, titre emprunté presque à Marivaux, qui intervient très vite, dans un mariage. La crispation des rapports entre le comte et la comtesse vient des refus mutuels qu'ils s'adressent. C'est toujours le même formule. Demande de B, refus de A, retour et accord de A, refus de B. La comtesse demande à son mari de l'accompagner au bal. Alors, il dit non parce qu'il est engagé avec sa maîtresse. Puis finalement, elle demande au chevalier de venir avec elle. Puis finalement, il change d'avis, il veut l'accompagner. Et puis elle lui dit, bah non, c'est trop tard. Voilà. Dans Les Demoiselles, le grief et la dispute vient du mariage forcé auquel ont été contraints les deux jeunes gens. Roger de Saint-Hérème le reproche à Charlotte, mais elle ne comprend pas. Elle lui dit, mais hier encore, vous me disiez à mes genoux que vous m'aimiez, donc vous devriez être très content. Donc ils sont fâchés. Louise et Duboulois, ça c'est le couple père bourgeois, vit un petit peu la même dispute, mais traitée de manière comique. On est dans le contrepoint. Donc, tension et dispute très forte. Les petites comédies, elles aussi, illustrent cette confrontation. Dès leur première séance, dans Le mari de la veuve, Paul et Pauline et Léon se disputent, parce que Pauline comprend que Léon est amoureux de sa tante. Et puis, il y a une autre dispute très intéressante entre Paul de Verpré, qui retrouve sa femme après plusieurs années d'absence, et qui commence par une crise de jalousie. Et on a un dialogue très dissymétrique, avec les questions et les réponses qui ne correspondent pas. Adèle dit à son mari, « Sans cet étrange secret que tu me recommandes, j'aurais parlé à tout le monde de mon bonheur. » Alors, le bonheur, c'est son retour. Enfin, il est revenu, il y avait un jeune homme. Paul, « Ce secret est encore nécessaire. Mais dis-moi, quel est ce... » Adèle, « Mais les circonstances politiques ont bien changé. » Paul, « Changé. Il y avait ici, quand je suis arrivée, un jeune homme... » Adèle, « Ta traversée a été heureuse. » Paul, « 18 jours de New York au Havre. » Ce jeune homme, qui était-ce ? Bon, et c'est exactement ce qui se passe entre Antonine et Maurice dans l'invitation à la valse. Maurice arrive, il y a un jeune homme, et il lui dit « Qui est ce monsieur qui s'en va avec un air trop contrarié ?» Donc elle attendait un jeune homme romantique, elle retrouve une sorte de Miles Gloriosus, et il y a une grosse déception des deux côtés. Idem dans Le Cachemire Vert et L'Honneur est satisfait, un homme poursuit une femme qu'il trouve insupportable, et ce caractère insupportable est d'autant plus fort que l'homme prétend faire pression par le langage. Conrad, dans Le Cachemire Vert, pratique la prophétie autoréalisatrice, il anticipe l'évolution de Claire, il lui dit « c'est l'affaire de votre cerveau, en attendant que ce soit celle de votre cœur ». Vous me détestez. Hors de l'haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc évidemment, il s'avance un petit peu. Idem, Sir Edward, dans L'Honneur est satisfait, renverse la situation et de harceleur se présente comme le harcelé. Il dit à Edmé, je n'eusse jamais osé vous adresser la parole si la première vous ne m'eussiez parlé. Donc voilà, renversement des rôles, ce qui est une sorte de manipulation. Alors, dans ce contexte de dispute et de blocage, il faut une médiation et les protagonistes ont besoin qu'un tiers joue ce rôle. Dans Un mariage sous Louis XV, c'est le commandeur, le vieil homme, qui a organisé le mariage et qui énumère à son neveu les qualités de sa femme. Et le comte est influencé. « Oh, ben mon oncle a raison, elle est charmante. » Et le commandeur devient le confident, il recueille les aveux et il va pouvoir arranger les choses. Parce que, évidemment, le but de la comédie, c'est d'arranger les choses. Dans Les Demoiselles, c'est Louise, la compagne de Charlotte, qui explique à Roger que ce n'est pas Charlotte qui a organisé le mariage forcé, et elle lui dit tout ce qu'elle a fait pour lui, en provoquant le retour de ses biens, etc. Arthur, le frère d'Edmé, dans L'Honneur est satisfait, met en valeur les qualités de Sir Edward, et lui dit « Mais j'ai une proposition à te faire, c'est de l'épouser, tout simplement. » Et finalement, elle va commencer à penser à cette idée. Et dans L'Invitation à la valse, il y a un cas limite, c'est la médiatrice, Mathilde, qui devient ensuite la rivale ou l'amoureuse bis. Elle affirme à Maurice qu'Anthony l'aime toujours, et puis après, ben, c'est quand même elle que va épouser Maurice. Alors, la médiation ne suffirait pas, il faut une épreuve qui mette les amants conflictuels ou les époux conflictuels au pied du mur. Et cette épreuve peut prendre des formes variées et va générer une prise de conscience. Alors, la première, c'est l'annulation, la menace de l'annulation ou du divorce, qui en général suscite des sentiments contradictoires. Alors ça, c'est un thème assez fréquent, je dirais, ça avait été traité par Mazer et Empis avec Julie et la séparation en 1836. Et puis Sardou, dans un autre contexte, reprend ce thème avec Divorçon, hein, dans les années 70. Alors dans un mariage, là, c'est pas le divorce, c'est l'annulation. Cette possibilité, d'abord repoussée par les époux et finalement acceptée par eux après une dispute. Bon, ça n'ira pas jusqu'au bout, je vous rassure. Cette péripétie se retrouve dans Les Demoiselles. Charlotte annonce à Roger que leur mariage est annulé. Et Roger est finalement très orienté. Il dit « Me voilà libre, 3 points de suspension. Parfaitement libre, 3 points de suspension. Libre comme l'air. » Enfin, on se demande s'il est très heureux d'être libre, finalement. Et dans un autre sens, c'est l'ultimatum du mariage qui sert de révélateur. En demandant à Antonine de fixer une date, « Allez, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois », Maurice provoque chez elle un évanouissement qui traduit son recul devant un projet qu'elle pensait caresser jusque-là. Autre épreuve très classique, la jalousie. Alors ça, on le voit avec le cas du comte de Candale dans Un mariage, qui a voulu jouer au mari accommodant, mais qui se rend compte que finalement, ça ne lui plaît pas du tout, que sa femme est un Sigisbée, ça va pas très loin. Dieu me pardonne, je suis jaloux, c'est que je l'aime. Donc, jalousie égale amour. Bon. Idem dans Les Demoiselles de Saint-Cyr, Saint-Hérem est furieux que le roi d'Espagne ait des vues sur Charlotte, et Charlotte se dit « Il m'aime, que je suis heureuse ». Voilà. Dernière forme d'épreuve, le duel. Ça, c'est impossible à éviter dans une société où le code d'honneur est quand même prégnant. Dans les comédies plus modernes, ça sert de révélateur. La comtesse de Candale, au début, est très préoccupée par le « qu'en dira-t-on », puis à la fin, elle s'affole en voyant que son mari se bat pour de vrai. Et elle se jette dans ses bras quand il revient. Je dirais que c'est le seul geste un petit peu tendre qu'il y ait dans toutes ces comédies. Et même Angoisse pour Edmé, l'honneur est satisfait, qui refuse de permettre à son harceleur de se battre en duel. Et elle tremble finalement pas pour son frère, mais pour lui. Voilà. Donc, après cette épreuve, on arrive à la déclaration. Une déclaration qui va être un aveu d'amour ou une demande en mariage, quand le mariage n'a pas eu lieu au début. Et ça, c'est une étape essentielle dans la mesure où ça précipite le dénouement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette déclaration n'est jamais adressée au principal intéressé. C'est le personnage qui s'avoue son amour à lui-même ou qui l'avoue à un tiers. Et l'échange n'est jamais très, très franc. La comtesse dit « Oh, il n'y en a qu'un, le seul, le vrai Candale », parce que son oncle pense qu'elle a un deuxième amant, alors il commence à trouver que ça fait beaucoup. Le comte dit « Ah oui, mon oncle, je l'aime ». Alors, il y a certains gestes qui peuvent parler, par exemple, Roger s'agenouille devant Charlotte, Louis XIV, mais là ça va mal se terminer, s'agenouille devant Marie en se déclarant, dans un contexte très romantique, chaste, tonnerre, éclair. À l'extrême fin de l'honneur, Edmé dit « je vous aime », ce qui arrive un petit peu de manière forcée, mais ça fait rien. À la fin de l'invitation, Maurice n'a pas fait de déclaration à Mathilde, mais il s'engage de facto en se déclarant marié de manière anticipée. Il dit « je suis marié et voici ma femme ». Alors la pauvre Mathilde n'y comprend rien. Puis il dit « oui, mais je ne fais qu'anticiper un peu, on se marie dans 15 jours ». Voilà. Et donc, la déclaration a toujours lieu de manière assez alambiquée, notamment dans Le Verrou de la Reine, où Diane de Ruffet l'a fait à la place de Louis XV. Elle parle pour lui, elle dit « Oui, vous aimez la reine, et c'est pour moi une grande joie, un grand bonheur de le dire. » Et puis la reine qui est derrière entend tout, et elle se dit « Ah, mon mari m'aime, donc c'est parfait. » Alors, dans toutes ces étapes, il y a quand même un contre-exemple qui est la jeunesse de Louis XV, qui est le contre-exemple total, parce que les étapes sont interverties. Il y a l'épreuve qui arrive tout de suite après le badinage et la déclaration. Il y a une grande scène nocturne dans l'orangerie, qui est une sorte de remake du dernier acte du mariage de Figaro, avec plein de chasseurs croisés, et Marie prend le roi pour le comte de Guiche, et lui rappelle leur brève flirt, et Louis XIV, évidemment, ne peut pas supporter ce rappel. Alors, évidemment, on est dans le mensonge romantique, parce qu'il y a quand même une vérité historique. Louis XIV se joue la comédie de l'amour absolu, mais en fait, il faut faire coïncider l'intrigue avec la réalité. Et Marie n'est pas du tout dupe de cette situation. Donc, une scène douloureuse, même si le texte nous fait un peu sourire aujourd'hui, parce qu'il est quand même bourré de clichés, du genre « un souffle a passé sur le miroir de notre amour et la ternie », mais l'émotion est très forte et les spectateurs ne riaient pas du tout à l'époque, parce que c'était senti comme une scène de rupture très douloureuse. La jeunesse n'est pas une pure comédie, c'est une comédie qui a une grosse part de drame, tout simplement, hein, et qui fonctionne donc différemment et qui nous rappelle les comédies de Musset qui souvent se terminent assez tragiquement. Mais je dirais qu'à part cet exemple un peu amer, les comédies se dirigent vers le happy end de l'amour partagé et du mariage validé ou projeté, ce qui traduit finalement un refus de la guerre des sexes et aussi une vision très conservatrice, puisque dans les comédies en costume, il s'agit de valider le mariage arrangé en montrant que l'amour arrive après le mariage, ce qui était très précisément le discours que les organisateurs tenaient aux principaux intéressés. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces comédies, même si elles n'ont pas une grande valeur documentaire, et là, c'est vrai que je n'ai pas fouillé la Gazette des Tribunaux, j'aurais dû, Christine m'offre des perspectives très intéressantes. Même s'il n'y a aucune prétention au réalisme, il y a quand même un éclairage sur les réalités du mariage au XIXe siècle, parce que ces comédies parlent en creux au spectateur de son époque et suscitent le questionnement sur la continuité ou la rupture. Et la question, c'est, est-ce que les choses ont tellement changé ? Dans les petites comédies contemporaines, il y a aussi cette question, finalement, est-ce que ces situations ne se retrouvent-elles pas de manière plus ou moins modifiée dans le contexte de la réalité ? Alors, on pourrait penser que les unes se situant leur action avant la Révolution et les autres après, on pourrait voir une forme de glissement d'une forme matrimoniale à une autre, mariage arrangé d'abord, mariage d'inclination après. Et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que la Révolution ait constitué une telle césure. Et ce qui frappe quand on compare deux modèles, c'est la permanence beaucoup plus que l'évolution. Alors, on a donc d'un côté le mariage ancien modèle, avec arrangement, nom, titre, argent, pression de la famille, qu'on voit avec Anne d'Autriche ou avec le commandeur, endogamie sociale et familiale. Dans un mariage sous Louis XV, non seulement le mariage est arrangé, mais les mariés se découvrent le jour des noces, hein, c'est un peu marié au premier regard, et c'est perçu comme quelque chose de très satisfaisant par le comte de Candale, qui dit, au fond, bah, on gagne du temps, pas la peine de faire la cour, pas la peine de se connaître. C'est un mariage très convenable sous tout rapport. Les mariés sont des cousins, et ça, c'est un statut très ambigu. Parce qu'en général, on aime bien le cousin, on reste dans le cercle familial, mais le cousin, c'est souvent aussi le premier amour. Et bien là, c'est pas le premier amour. Le premier amour, il était exogame. Dans Les Demoiselles de Saint-Cyr, homogamie sociale. Saint-Hérem et Dubouloy sont mariés à deux femmes de leur caste, une noble et une bourgeoise, donc on transgresse pas ça du tout. En revanche, il y a une différence de richesse. Donc ça, c'est important. Et cette question d'argent, elle est effectivement prégnante dans les comédies en costume. Le grand-oncle d'un mariage veut marier ses neveux. Pourquoi ? Pour que l'héritage reste dans la famille, tout simplement. Les deux protagonistes sont égaux dans leur position sociale, alors que l'amant de la comtesse, le chevalier, d'après son titre, ne doit pas être un héritier. Les demoiselles insistent beaucoup sur les aspects matériels du mariage, présentés comme une institution économique et qui met en lumière les échanges et les transferts entre individus. Dans cette pièce, le mariage forcé a fait perdre aux bourgeois du Boulois un mariage arrangé avec une dot. Et ça, ça ne l'amuse pas du tout. Cette dot, c'était la charge de gobelettier du roi. Et Roger de Saint-Hérem, lui, il ne perd rien, mais il est obligé de partager ses biens avec une femme avec laquelle il ne voulait pas se marier. Alors, la réparation passe par la rétrocession ou le donnant-donnant. À la fin, Charlotte dédommage Roger de tout ce qu'elle lui a fait perdre involontairement en obtenant la restitution de ses biens. Et Louise apporte sa dot sous forme d'un brevet de baron, donc elle dédommage du Boulois de la perte de la charge de gobelettier. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait, je dirais, un équilibre. Alors, dans le nouveau modèle vu dans les petites comédies, on retrouve quand même beaucoup d'éléments du mariage ancien modèle, notamment la persistance du mariage arrangé qui continue. Mais là, il n'est plus du tout présenté comme quelque chose qu'il va falloir valider, sauver, recycler, améliorer, mais comme un anti-modèle. Dans ces petites comédies, il y a souvent au départ un mariage raté qui est un mariage arrangé, qui se résout de manière très simple par la mort du mari, donc c'est bien. Et du coup, on se retrouve dans un autre style de comédie, la comédie du remariage. Alors vous allez me dire, c'est pas très nouveau, on trouvait ça chez Marivaux. Et c'est ce remariage dont rêvent Claire et Antonine, les héroïnes du Cachemire vert et de l'invitation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le remariage ne va pas du tout se passer comme elle l'imaginait, avec des changements de dernière minute qui finalement valident les préventions des aînés contre le mariage d'amour. Alors ces mariages qui se réalisent présentent un grand équilibre entre l'inclination et la raison. Ce sont des mariages bien raisonnables, pas du tout subversifs, avec compatibilité sociale, compatibilité générationnelle, endogamie, disponibilité des deux partenaires. Endogamie, Maurice n'épousera pas Antonine, mais Mathilde, la petite sœur, donc on reste dans la famille. Compatibilité générationnelle, Léon épouse Pauline, finalement, et non pas Adèle, la tante, qui d'ailleurs n'est pas disponible. Compatibilité sociale, dans le Cachemire vert et l'honneur est satisfait, les deux protagonistes correspondent très bien sur le plan social, même s'ils se sont rencontrés par hasard, ce qui n'est jamais très bon, et même si l'un des deux est étranger. Ce sont des relations de voyage, et les guides de savoir-vivre à l'époque conseillent vivement de se méfier des relations de voyage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les hommes qui font la demande en mettant en avant leur situation. Conrad dit... Je suis marin sédentaire, donc je serai toujours là. Alors, est-ce que c'est un argument positif? Je ne sais pas. Je ne fume pas. 50 000 livres de rente, un hôtel à Paris, une maison de campagne, une logeuse italien. Bon, pas mal. Edward dit, je suis baronnet, bientôt member of the parliament, 20 000 livres de rente, etc. Donc, ces jeunes gens se présentent avec tout ce qu'ils ont de positif. Alors, on a vu que dans ces pièces, il y avait des annulations, des séparations. Là, pour le coup, la Révolution a marqué vraiment une charnière avec la sécularisation du mariage. Mais pour ce qui est de la séparation, c'est un petit peu plus compliqué parce que la Révolution a mis en place le divorce, lequel a été aboli sous la Restauration et ne sera rétabli que par la loi Naquet dans les années 80, donc beaucoup plus tard. Donc, il y a toujours ce côté un peu fort et prégnant de l'institution, mais c'est quand même pas un retour à l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, on a besoin de passer par la case annulation. Ça se joue en cour de Rome, par des institutions religieuses. C'est le cas illustré dans Un mariage et une demoiselle. Mais c'est réservé aux personnes qui ont quand même une certaine importance, pas pour les bourgeois, Louise et Dubois. Dans le monde contemporain, là c'est les petites comédies, on est dans la séparation et ce sont les avocats qui sont à la manœuvre et non plus les institutions religieuses. Mais cette séparation ne représente qu'une libération finalement partielle. Les deux héroïnes, Antonine et Claire, l'obtiennent assez vite parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire. Mais néanmoins, elles demeurent quand même liées jusqu'à la mort de leur époux. Antonine dit qu'elle ne peut même pas écrire à Maurice après la séparation. Et quant à Claire, elle doit vivre aux États-Unis jusqu'à la mort de son mari. Ça, il faudrait que je vérifie si c'est réellement une obligation de la femme séparée. Ce sont des pièces qui nous parlent aussi un peu de la marge de manœuvre des femmes et du décalage éducatif. Et ça, on en parlait hier, notamment avec Lise Dumazy. On le voit dans les comédies en costume, qui mettent en scène une pensionnaire naïve qui est précipitée dans le monde et ses embûches. Donc quand on passe du couvent à la vraie vie, évidemment, c'est compliqué et on est une proie toute désignée pour les libertins. C'est ce qui se passe un peu avec Angèle, dont Christine nous parlait tout à l'heure. Et la comtesse est quand même une noix blanche, elle pose des questions quand même très naïves à sa suivante. Charlotte dans Les Demoiselles est encore pire. Bon, heureusement que son amie est plus dégourdie et la met un petit peu au courant. Mais comme on est dans le contexte de la comédie, ces jeunes filles ont beaucoup de chance et ne tombent pas sur des libertins. Hein, le comte n'est pas un libertin, Saint-Hérème non plus, même s'il se présente comme tel. Et finalement, il n'y a pas de gros problèmes. Cela dit, la question de la consommation sexuelle de l'union est évoquée dans deux pièces. Un mariage sous Louis XV, hein, la comtesse a promis au chevalier de ne pas y consentir. Comme dit sa suivante, bah oui, mais quand on se marie, on se marie. Bon. Et quand elle raconte à son amant l'épisode, où finalement ça ne s'est pas passé parce qu'elle a trouvé un mari très compréhensif, elle dit « Il m'a vu les larmes aux yeux, toute tremblante, pâle comme si j'allais mourir, il a eu pitié de moi. Et cependant, il était le maître, j'aurais eu beau implorer, prier, s'il avait voulu, je lui appartenais. Hein, » Donc on voit vraiment le décalage de préparation à cette situation. Pour le comte, ça n'aurait pas été un gros problème. Et ça se retrouve aussi dans Le Verrou de la Reine, où tout ce qui explique la mésentente royale, c'est le fait que le roi et la reine n'ont pas consommé leur mariage. Le ministre Fleury a mis un verrou à la porte de la reine, et la reine, qui est un peu bébête, pousse le verrou tous les soirs, ce qui fait que le roi est quand même très malheureux et commence à penser à autre chose. Autre point intéressant, la question de la dépendance économique des filles, abordée par les demoiselles de Saint-Cyr. Louise Mauclair envisage le mariage comme un établissement. Hein, elle rêve d'un fermier général laid, mais riche à millions. Et en fait, pour faire prendre conscience à Roger des réalités, elle met la main de son ami aux enchères. Elle lui dit qu'un chapitre à Saint-Cyr a été promis à Charlotte, bonne situation, donc s'il la veut, bah, il doit donner plus, tout simplement. Hein. Et là, elle se fait le relais de Madame de Maintenon, qui était très préoccupée par la condition des jeunes filles nobles et pauvres. Alors, elle-même a bien réussi son coup avec du boulot, et après, elle dit « Regretter d'être mariée, moi ? Mais j'en suis enchantée. Sais-tu qu'il a un très bel hôtel ? Tu verras mon appartement. Délicieux, ma chère. Quand je compare cela à ma chambre de Saint-Cyr. » Alors aujourd'hui, Louise serait, je pense, une Américaine enchaînant les mariages et les divorces pour se constituer un patrimoine. C'est un personnage assez cynique, mais finalement très drôle. Ce qu'on voit quand même se produire dans ces pièces, c'est une timide accession à l'indépendance de ces jeunes femmes. On voit apparaître donc le personnage de la jeune veuve ou de la femme un peu indépendante. Alors il y en a deux qui sont mises en scène chez elles, mais deux qui sont mises en scène en voyage. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'elles ont une certaine liberté de mouvement. Hein. Alors la plupart sont mariées, veuves, séparées, etc. Mais Edmée, dont l'honneur est satisfait, est une jeune femme totalement libre. Et elle se déplace, et elle est libre de son consentement, de son argent, de ses mouvements. Cela dit, cette liberté n'est pas présentée comme une valeur en soi très désirable, parce que le but de la pièce, c'est quand même de la pousser vers le mariage. Donc il ne s'agit pas de faire la promotion d'une jeune femme solitaire et indépendante, qui serait une sorte de, je sais pas, de Bridget Jones avant la lettre. Hein. Le but, c'est quand même d'arriver au terminus du mariage, mais un mariage renouvelé. Et j'aborde ma dernière partie, donc la mutation des modèles conjugaux. Alors Christine parlait très justement de l'horizon d'attente du public, et ces comédies évidemment doivent le prendre en compte. Hein, ce public qui vient là pour se distraire, parce qu'on est vraiment dans l'optique du divertissement, reste quand même assez conservateur, donc il veut pouvoir emmener les femmes et les filles au théâtre sans que on montre des choses trop olé olé, mais tout de même, ce public n'est pas complètement imperméable à l'évolution des mentalités. Donc, il faut réconcilier l'amour et le mariage, faire la part du sentiment et de la raison, et faire passer une visée correctrice sous un enrobage quand même assez séduisant, parce que la visée correctrice, on ne peut quand même pas la montrer de but en blanc, ça serait didactique et pesant. Hein. Donc, finalement, il s'agit de poser sur le mariage un regard positif et de proposer un mode de relation apaisé. Donc, c'est peut-être finalement le réalisme conjugal de Benjamin Constant dont on parlait hier. C'est peut-être aussi l'acte de naissance du couple contemporain. Ça, je vous laisse prolonger. Alors, j'avais dit que la portée correctrice était faible. Oui, et on le voit très bien avec le commandeur, dont le nom est tout un programme, et qui finalement dit « je voulais infliger un châtiment, mais finalement ce ne sera qu'une leçon ». Donc, quels sont les profils qui doivent être corrigés ? Alors, Premier profil, c'est le libertinage, la dissociation amour-mariage, hein, qui est la soumission à la comédie sociale qu'on voit dans Un mariage. Bon, il est couramment admis, mais ça a été beaucoup remis en question, que l'amour entre conjoints était mal vu. Alors, le commandeur enregistre les contradictions de ses neveux et nièces, qui finalement s'avèrent amoureux l'un de l'autre, et dit à sa nièce, malheureuse, tu aimes ton mari, mais où allons-nous, bon Dieu, où allons-nous? Voilà, donc il la met devant ses propres contradictions. Dans Les Demoiselles, pareil, c'est la propension au libertinage de Saint-Hérem et du Boulois qui est démasquée par leurs femmes qui les intervertissent. Là, on est toujours dans Le Mariage de Figaro, hein, mais comme finalement rien n'est allé très loin, la punition n'a pas besoin d'être sévère. Dans Le Verrou de la Reine, très intéressant, la jeune Diane de Ruffet remet Louis XV dans le droit chemin en lui disant « je suis à vos genoux, mais si c'était le contraire, ça serait très compromettant ». Mais elle se permet aussi de critiquer la rigidité de la reine, rigidité qui est aussi tout simplement de la frigidité. Hein, donc, elle fait la leçon des deux côtés. Idem, Adèle, dans Le mari de la veuve, veut donner une leçon à Léon qu'elle a trouvé très léger et très inconstant. Et aussi à son mari, parce qu'elle ne supporte pas bien la scène de jalousie qu'il lui a faite alors qu'il revenait de plusieurs années d'absence. Donc, je dirais que dans ces pièces, le caractère est quand même assez édulcoré des transgressions, l'adultère est peu présent, pas représenté, il y a bien une marquise dans Un mariage, mais on ne la voit pas, le chevalier n'est qu'un sigisbée, hein, il ne fait rien d'autre que parler avec la comtesse, Roger et Dubougon n'ont pas fait beaucoup de conquêtes, le roi n'a pas eu beaucoup de succès avec Diane, Paul de Verprez est jaloux, mais pas violent comme le duc de Guise, etc. Bon, il n'y a qu'une exception, c'est la punition amère de Marie Mancini dans La Jeunesse de Louis XIV, mais ça, je vous avais dit, c'est une punition prétexte, qui est tributaire de la réalité historique. La conclusion est triste et Marie, en partant, prophétise au roi qu'il aura de nombreuses déconvenues amoureuses et ça, on sait très bien que c'est faux. Voilà. Alors, à travers ces pièces, on voit donc des modèles conjugaux qui évoluent. Rejet d'un modèle matrimonial avec un mari barbon et jaloux, comme Chrysale ou Bartolo, avec des modèles plus novateurs. Alors, évidemment, il y a toujours la persistance du modèle aristocratique, comme dans Un mariage où les demoiselles, le mari qui se bat en duel pour sa femme, qui défie le roi, etc. Bon, et ça, c'est interprété comme une preuve d'amour. Mais à côté de ça, on voit un modèle bourgeois qui prend une place de plus en plus importante. Hein. Ce modèle bourgeois dont rêvait la pauvre Diane de Ruffet pour Louis XV et Marie d'Exinska, alors elle, pour elle c'était positif, mais quand Richelieu évoque ça, il persifle, il dit « bah oui, ça va devenir un petit ménage bien doux, bien modeste, bien gentil, bien bourgeois ». On voit apparaître quelque chose de plus novateur qui est le couple camarade, fondé sur une forme d'égalité, et ça c'est ce qui se passe dans Un mariage, où le comte et la comtesse de Candale font des assauts de bons sentiments. Et le comte de Candale se comporte un peu comme le protagoniste de Quitte pour la peur de Vigny ou d'Un caprice de Musset. Et il décrit la conduite que doit adopter un mari parfait, ne pas être jaloux, faire confiance, ne pas craindre la relation entre la femme et son ami. Enfin bon, il y a une sorte de rappel de la nouvelle Héloïse, mais qui va bien tourner. Il y a une sorte de... Alors, le couple camarade peut dériver vers le couple aventureux. Ça, c'est ce qui arrive dans le Cachemire vert, où il y a une péripétie un peu curieuse. La liaison entre Claire et Conrad, c'est une conversation sans fin d'un bout à l'autre de la pièce, mais à la fin, c'est complètement loufoque. Claire doit s'évader par la fenêtre, un gendarme les rattrape, et finalement, elle s'en sort parce que Conrad dit que c'est sa femme, alors que c'est pas sa femme. Bon. Donc, je dirais que Le mariage à venir débute par une aventure à deux, et ça, c'est un modèle un petit peu nouveau. Et puis le couple fraternel, Maurice et Mathilde, ce sont les seuls qui se tutoient et Maurice appelle Mathilde petite sœur. Sur le plan des sentiments, je dirais que même si le mariage préconisé est un mariage d'inclination, on dira que l'amour, tel qu'il est représenté, n'est pas du tout chargé de passion. La passion n'est pas à sa place dans ces comédies, où prévaut un sentiment plus modéré. Et comme le dit Antonine à Paul de Sors, je vous aime autant qu'on peut aimer un homme qu'on n'aime pas. Donc voilà, ça veut tout dire. Cet amour est un amour relatif qui fonctionne par comparaison, comparaison dépréciative, comparaison avantageuse. Bon, c'est jamais dans l'absolu. Notamment dans L'invitation à la valse, Antonine compare Maurice et Paul de Sors. Et alors elle dit, oh Maurice, il a 24 ans, il est blond, mince, pâle, doux, poétique. Je me rappelle qu'une fois, il avait mis une de mes robes, il avait l'air d'un enfant. Et Paul de Sort dit, allons, je vois que je ne saurais lutter contre tant d'avantages. Et puis après, quand le vrai Maurice arrive et ne correspond pas du tout à ça, et eh bien voilà, ça se passe très mal. Les comparaisons sont légion. Et on voit par exemple dans la jeunesse de Louis XIV, quand Marie compare le roi à Guiche, cette comparaison ne marche pas parce que le roi ne peut pas souffrir une comparaison même flatteuse. Donc, amour relatif, refus de l'amour fou dont parlait Julie, refus de l'amour désordre parce que l'amour fou, c'est un facteur de trouble qui fragilise les familles, les patrimoines, voire le royaume. Il n'y a qu'un exemple de passion incarné par Louis XIV, mais s'il y obéit, c'est les rapports avec l'Espagne qui flanchent. Si Adèle répond au sentiment de Léon, même si ce n'est pas un amour fou, c'est toute une famille qui vole en éclats. Et finalement, on se rend compte que ces comédies se présentent comme l'enfer des drames en refusant la déconstruction et la destruction. Finalement, l'invitation fonctionne avec les mêmes éléments de départ qu'Antony, mais un tout autre résultat. Vous avez vu qu'Antony, ça se terminait très mal, et bien l'invitation, ça se termine par un double mariage, c'est beaucoup mieux, enfin, c'est beaucoup plus confortable, disons. Dans Un mariage, les critiques ont noté que l'amant qui est reçu au domicile conjugal et qui joue aux cartes avec le mari, ça paraît quand même un peu bizarre. Si on regarde Le mari de la veuve, je dirais que c'est une sorte de remake rose de Teresa, c'est-à-dire que l'amour incestueux est plus ou moins mis au placard et l'amour se joue entre jeunes gens de la même génération. On remarque aussi que certaines situations, comme la séduction à l'hôtel, ça c'était des éléments lourds dans Antony et dans Angèle, et bien dans Le Cachemire vert et L'honneur est satisfait qui se passe dans des hôtels, rien ne se passe parce que les deux jeunes femmes ont affaire à de bons prétendants et pas du tout à des séducteurs. Alors. Enfin, je dirais, et je vais en terminer là, que même si certains modèles de constance sont valorisés, comme Adèle de Verpré, les sentiments sont présentés comme fragiles et changeants, surtout dans les pièces contemporaines. Mais, et c'est ça qui est intéressant, cette variabilité n'est pas du tout perçue comme un drame, mais comme inhérente à la nature humaine. En fait, ce qui s'exprime dans ces pièces, c'est une vision sans illusion des rapports hommes-femmes. L'amour ne rime pas nécessairement avec toujours, mais finalement, c'est pas très grave. Il y a une seconde chance qui est possible, et toute la comédie du mariage est fondée là-dessus. Donc, le mariage espéré, dans certains cas, ne se fait pas, mais il est remplacé par un autre, un de perdu, un de retrouvé, et qui vaut finalement celui qui était perdu. Donc, je dirais que la mécanique de ces pièces illustre la capacité à rebondir des individus, ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement la résilience, et se mettre au service d'une conception très optimiste de la vie. C'est pas du tout « tu es à moi comme l'homme est au malheur », c'est le bonheur, lucide, léger, et on ne veut pas mourir d'amour. Ça paraît complètement exclu. C'est ainsi que Antonine ne prend pas du tout au sérieux le chantage au suicide de Maurice de Sort. Il lui dit « Vous parlez de désespoir, c'est Maurice qu'il fallait voir quand il dut renoncer à moi. Il voulait se tuer, Paul de Sort. Et moi, que voulais-je faire tout à l'heure, Antonine ? Eh bien, il ne se tua pas, comme vous voyez, et il fit bien. » Idem, dans Le mari de la veuve, Paul de Verpré exploite ce motif en forçant Léon à faire une déclaration à Pauline. Vous disiez que vous en étiez fou, vous ne pouviez pas vivre sans elle, que vous vous brûleriez la cervelle si vous ne l'obteniez pas. C'est bien à peu près cela que vous avez dit, n'est-ce pas ? Alors Léon, pas tout à fait, mais Verpré, entends-tu ? Il répète qu'il se brûlerait la cervelle. Malheureux jeune homme, un suicide. Donc bon, il y a évidemment une mise en contrepoint très ironique de tous les motifs du drame, et on n'y croit pas une seconde. Même si certaines femmes prennent un petit peu au sérieux cette menace. Donc je dirais que tout cela, tout cela contribue à présenter une vision de l'amour consensuelle, à véhiculer des modèles positifs qui aillent contre la mode des Antony. Et là, c'est un petit peu Dumas qui revient sur lui-même et sur ce qu'il a pu susciter. Bon, il est dans un autre registre aussi. On est dans le triomphe de l'idéologie bourgeoise, même chez les rois, centrée sur les valeurs privées. Et on est évidemment à milieu du romantisme et de ses excès flamboyants. Hein, c'est le triomphe du bon sens et des bons sentiments. Je dirais qu'on est presque dans la morale du drame sérieux, mais présenté sous un enrobage beaucoup plus séduisant. Alors si j'avais eu le temps, mais ça je ferais peut-être sur le mot d'écrit, il faudrait établir une généalogie entre ces comédies, les comédies postérieures, les comédies américaines, parce qu'il me semble qu'il y a une parenté, enfin une filiation qu'il faudrait retracer et qui pourrait être intéressante, mais ça sera pour plus tard. Pour aujourd'hui, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention.